tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Face. Et ce matin, une émission philo. Ma liberté est-elle négociable? Une question à la une ce mois-ci du mensuel Philosophie Magazine. Depuis le début de la pandémie, la question de la liberté est l'une de nos principales préoccupations. Les restrictions de déplacement, les interdictions diverses et variées, l'obligation vaccinale, l'instauration du pass sanitaire ont éprouvé l'un des fondements de notre devise nationale, notre liberté qui se heurte également à celle des autres quand du matin au soir nous pratiquons le compromis avec soi et autrui. Alors comment négocier entre nos droits individuels et le bien-être collectif? Comment faire ce que l'on veut sans nuire aux autres? C'est notre question ce matin, donc nos questions. Et vous, quelle est votre conception de la liberté? 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli France Inter en laissant une note vocale. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Le philosophe le plus chic de France Inter en col roulé noir ce matin.
C'est juste France Inter, c'est pas très difficile.
C'est sympa pour nos amis de France Inter.
Non, pas vous, pardon.
Quel est le menu de votre chronique? Oui, vous aurez pu vous taire.
La liberté d'expression.
Quel est le menu de votre chronique philo? On passera à la compta après.
Rouge. Hein.
Eh bien, je vais essayer de vous sortir de l'embarras du choix.
Voilà. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
La bonne copine de Grand Main Vous Face, l'ami du vendredi, c'est un personnage qui mérite toute notre amitié.
Oui, c'est étrange puisqu'on l'aime énormément alors qu'elle, vraiment, elle n'a pas de problème avec la liberté. Comment vous dire, nuire à autrui, ça ne lui pose aucun souci.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
En direct de Vienne, qui
exactement
ne supporte pas, que je la vous vois, et qui émoustille notre intelligence avec sa chronique sexe. Quel est le menu d'ailleurs?
Eh ben, on va aussi parler de liberté, de libération, et puis vraiment, alors, on va rien négocier du tout, je vous dis tout de suite. Hein.
Allez, bienvenue dans Grand Main Vous Face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali Rébéi.
Rédacteur en chef de Philosophie Magazine. À la une ce mois-ci, je le disais, ma liberté est-elle négociable? Je sens que vous êtes de très bonne humeur, Martin Legros.
Excellente.
Oui, ça se voit. Bonjour Marine Maizeau.
Bonjour.
Vous êtes l'une des philosophes les plus brillantes de sa génération, dirait Michel Drucker. Vous êtes normalienne, agrégée et professeure de philosophie, grande spécialiste d'Albert Camus, et vous publiez aux éditions de l'Observatoire La Petite Fabrique de l'Inhumain. Bonjour Aïda Ndiaye.
Bonjour.
Brillante professeur de philosophie que j'aurais aimé avoir en cours, je dois l'avouer. Vous êtes également normalienne et vous enseignez la philosophie en région parisienne. Alors, selon Le Robert, la liberté, c'est la possibilité d'agir sans contrainte, la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée, pouvoir d'agir dans une société selon sa propre détermination, dans la limite des règles. Enfin, c'est également le pouvoir que la loi reconnaît aux individus dans un domaine. Marilyn Maizeau, la première question tombe sur vous. Quelle était la conception de la liberté de votre maître Albert Camus?
Albert Camus n'a jamais consacré un texte en particulier à définir sa conception de la liberté. En revanche, elle transparaît de l'ensemble de son œuvre, et notamment puisque c'est le livre auquel j'ai consacré le plus de temps pour travailler sur La Petite Fabrique de l'Inhumain. Dans La Peste, il explique à un moment donné que les gens qui sur qui tombe la peste se croient libres, et le narrateur dit, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Et c'est une phrase un peu énigmatique, mais quand on a lu d'autres textes de Camus où il est question de liberté, notamment L'Homme révolté, où il évoque ce qui arrive à la liberté quand elle s'absolutise, en prenant l'exemple de des fictions de Sade, on comprend le sens de cette phrase. Qu'il entend par là, quand il dit que les Oranais se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux, c'est que la liberté, ça implique la possibilité de se projeter. La possibilité, justement, de ne pas être contraint par les événements extérieurs et de pouvoir faire des projets, de pouvoir se sentir maître de son existence, de ce qu'on veut en faire. Et le problème avec l'épidémie, c'est que ça n'est plus le cas pour deux raisons. D'abord, parce que l'épidémie met un frein au rapport qu'on a à l'avenir. Elle coupe littéralement la possibilité de l'avenir. On est en huis clos dans le roman. Et deuxièmement, parce que cette liberté qu'on pensait d'abord fondamentalement comme individuelle, on est forcé de prendre conscience qu'elle est devenue, ou qu'elle était dès le départ, collective, puisque tout ce qu'on fait dans un contexte d'épidémie, comme c'est le cas dans le roman, a des répercussions sur l'ensemble de la population.
Aïda Ndiaye, comment abordez-vous la question de la liberté avec vos élèves de terminale?
Alors en général, c'est le premier cours que je fais, à vrai dire. Je prends un sujet. Là, cette année, par exemple, j'ai repris le sujet de Bach, le beau sujet de l'année dernière, qui était « Sommes-nous responsables de notre avenir ?» Et donc, j'essaye de les amener à renverser, je pense, deux idées un peu préconçues qu'ils peuvent avoir sur la liberté. La première, c'est la toute-puissance de la volonté, que quand on veut, on peut. Et donc, sur la question, justement, de la responsabilité par rapport à notre avenir, spontanément, ils vont se dire, en plus, comme c'est des questions qui se posent par rapport à leur propre avenir, leur orientation dans le supérieur, qu'il faut bien travailler à l'école et puis que, du coup, si on le veut vraiment, on pourra avoir l'école qu'on souhaite. Et la deuxième idée aussi, je pense que j'essaie de les amener un peu à remettre en question, c'est l'idée que la loi est une contrainte, qui est une idée, je pense, très forte chez les élèves, que l'État et la loi, même juridique, nous contraint. Comme l'a expliqué Marilyn, on peut les amener à penser les choses sous un mode collectif. J'utilise beaucoup le contrat social, du coup, pour ça. Et puis, depuis quelques années, j'essaie de travailler aussi sur les sciences cognitives, en fait, sur le cerveau. Alors ça les passionne, et moi aussi, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait nos choix, les mécanismes vraiment non conscients, en fait, du cerveau, qui peuvent, en tout cas, interroger notre liberté, si ce n'est la remettre en question.
Thibaut de Saint-Maurice, comment vous abordiez cette question avec vos élèves de terminale ?
Exactement dans la même perspective, c'est pas très original. Simplement, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de partir de la propre manière dont les élèves parlaient de leur liberté ou de ce qu'ils pensaient être une expérience de liberté. Et donc, très souvent, la question était simple, c'était de dire, mais en fait, à quel moment vous vous êtes senti le plus libre ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes senti le plus libre ? Et puis, c'est quand même des ados, donc ils aiment bien déjà avoir l'impression d'avoir tout vécu. Souvent, c'était des moments, justement, où ils étaient avec des amis en vacances, au bord de la mer, enfin, en train, voilà. Et ce qui revenait le plus souvent et qui était assez intrigant et qui était le point de départ du cours, c'est que généralement, quand ils étaient le plus libres, c'est qu'ils avaient pas de pression, qu'ils ne pensaient à rien, qu'ils avaient aucune obligation, aucune contrainte, aucune injonction, etc. C'est-à-dire que dans une sorte en fait de fantasme complet d'indépendance, autonomie, enfin de blougi-blouga, d'absence de contraintes. Et ce qui était drôle, c'était que ensuite, quand on revenait, quand on questionnait un petit peu cette expérience-là, en fait, ils se rendaient compte que il y avait quand même un horaire à respecter, que en fait, ils n'étaient pas là par hasard, etc. Et donc voilà, moi, ce que je cherchais, c'était à pour les mêmes raisons que Aïda vient de décrire, c'est-à-dire à se rendre compte que en fait l'expérience spontanée que l'on pense avoir de la liberté est en fait pas forcément une illusion, mais infiniment questionnable.
Marie Maizot.
C'est vrai que quand on commence le cours sur la liberté avec les élèves en terminale, on s'aperçoit qu'il y a, comme pour tout, un certain nombre d'idées préconçues. Et c'est vrai que généralement, il y a une sorte de déflagration qui se fait quand on traverse ou on fait des croisements entre le cours sur la liberté et celui sur l'inconscient. Parce que ça, généralement, c'est à ce moment-là qu'on aborde la liberté, non plus comme une idée générale qu'ils peuvent se faire, comme vous venez de l'évoquer, mais comme quelque chose qui doit se comprendre en situation. Et je me parle d'un exemple que je prends pour essayer de leur faire comprendre que la contrainte, ça prend pas forcément la forme d'un interdit explicite ou d'une limite explicite. Ça peut aussi prendre la forme de ce qu'on pourrait appeler un soft power ou une direction, un nudge même, quelque chose qui ne se présente pas comme une contrainte, mais qui pourtant agit de la même manière. Et je me souviens que j'avais pris l'exemple au moment où on a travaillé sur l'histoire de la psychologie, sur le rôle qu'a joué la psychologie, et notamment la psychologie behavioriste, dans ensuite la construction de la publicité, de la manière, par exemple, dont les magasins sont organisés, et on a parlé de ça. Je leur ai parlé de la manière dont ils font leurs courses, je leur ai demandé s'ils sont déjà interrogés sur pourquoi les rayons sont organisés comme ils sont organisés ? Comment ça se fait que des fois on arrive avec sa petite liste de courses et on sort avec un panier qui est trois fois plus gros ? Est-ce que ça c'est normal ou est-ce que c'est totalement un hasard ? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place à leur insu dans le magasin pour les inciter à consommer ? Et même si l'idée de l'incitation à la consommation, parce qu'ils connaissent la pub et tout ça, ils sont familiers bien sûr du concept, jamais ils ne s'étaient posé la question de eux quand ils font leurs courses, comment très concrètement ça pouvait jouer ?
Petite parenthèse, vous parliez de nudge. Le nudge, c'est la manipulation bienveillante quand on vous incite à adopter des comportements positifs. Guillemette Odissino.
Oui, alors, la manipulation bienveillante, mais est-ce qu'ils sont conscients aussi de beaucoup de manipulations malveillantes, ou en tout cas, par exemple, vous parlez du marketing, pour aller vite, mais est-ce qu'ils sont conscients, par exemple, est-ce qu'ils se sentent libres grâce à Internet? Gros point d'interrogation. Enfin, est-ce que tous ces médias et ces supports qui les entourent, est-ce qu'ils sont persuadés que ce sont des supports de liberté, ou est-ce qu'ils sont conscients que cette extrême liberté, en fait, est une sorte de manipulation ou de contrainte pour eux?
Ça, c'est un travail qu'il faut faire immédiatement quand on les a en classe, parce qu'effectivement, souvent le rapport à Internet, il est un peu ambivalent, parce qu'à la fois c'est une extrême liberté, il y a une soif de découverte, on peut aller sur plein de sites et puis apprendre des choses, ou en tout cas lire des choses. Mais là où ils n'ont pas forcément conscience du risque, c'est que, par exemple, quand ils n'ont pas encore travaillé sur comment on fait pour reconnaître une source fiable, une source qui ne l'est pas, qu'est-ce que c'est qu'un média d'information, et que eux, ils ont tendance à dire, j'ai regardé telle vidéo qui m'a fait comprendre que les médias nous mentaient, etc. Et d'un côté, ça leur donne un sentiment de pouvoir. C'est, j'ai une connaissance où j'ai été éclairée sur un mensonge qu'on a essayé de m'inculquer, et maintenant, je suis libérée justement de cette tentative de manipulation. Et derrière, ça demande tout un travail extrêmement délicat pour leur expliquer ce que c'est qu'un média de propagande et comment sur Internet ces vidéos sont construites justement pour les tromper, quoi.
Aïda Ndiaye.
Oui, je pense que c'est aussi assez variable. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'ils ont parfois une certaine méconnaissance, en fait, des outils, d'Internet, de la manière dont ça fonctionne, de pourquoi, un peu comme, effectivement, sur les nudges, telle information est poussée à tel moment. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils ont une vraie méconnaissance des traces qu'ils laissent, en fait. Moi, je leur dis, par exemple, il faut peut-être, à un moment, cleaner votre Facebook quand vous allez chercher du travail. La première chose qu'on va faire, c'est vous googler, et donc, il faut checker, quoi. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il leur manque un peu, pour le coup, la liberté qui découle de la connaissance des choses, en fait, qui donne du pouvoir.
Cliner, checker, googler, vous allez avoir du courrier, Aïda Ndiaye, Martin Legros.
Oui, il distinguerait tout de même, là, on parle de la question de la liberté plutôt dans un rapport à soi, c'est-à-dire la question de l'aliénation. Comment est-ce que la liberté peut s'oublier elle-même en étant déterminée par un contexte, par un supermarché, etc. La question que nous nous sommes posées, c'est plutôt ma liberté est-elle négociable? C'est-à-dire, vous l'avez très bien dit en ouverture, Ali Rebéi, j'ai le sentiment que nous avons fait l'expérience avec cette crise du Covid de questions qui pouvaient paraître très abstraites. C'est quoi la liberté? Alors on dit aux enfants, la liberté elle s'arrête là où commence celle des autres. Oui, mais ça leur paraît toujours un peu abstrait. Et il me semble que dans le monde contemporain, et c'est le cas pour l'expérience du Covid avec le pass, avec la vaccination, on a été amené à comprendre que notre liberté n'est pas, nous ne sommes pas des individus isolés, mais que nous sommes intimement, que la vie sociale et que même l'exercice de notre liberté est conditionné au rapport que nous nouons avec les autres. Et que penser sa liberté, c'est nécessairement l'articuler avec celle des autres. Et je crois que ça vaut pour le Covid, mais que ça vaut aussi pour l'écologie, ça vaut pour la question du voile, par exemple, ça vaut pour toutes les questions de consommation. C'est cette question de l'articulation des libertés entre elles dont nous faisons, dans le monde contemporain, une expérience assez concrète, je crois.
Et au 19e siècle, un philosophe anglais, John Stuart Mill, révolutionne le sens que l'on donne à la liberté. Il énonce cette règle: chacun peut faire tout ce qu'il veut à une condition, ne pas nuire à autrui. C'est d'une clarté admirable. Précisez, Martin Legros, ce principe de non-nuisance.
Oui, Mill a formulé un peu le grand principe, il est d'ailleurs dans la Constitution, dans toutes les constitutions démocratiques, ne pas nuire à autrui, faire tout ce que l'on peut tant que nous ne nuisons pas à autrui. Alors ce qui est intéressant dans la pensée de Mill, c'est qu'il pose ce principe, mais il l'accompagne de toute d'une réflexion très profonde. On pourrait croire que ne pas nuire à autrui, donc comme je le disais, les individus sont isolés et ils doivent juste respecter la frontière des autres. Je ne mets pas la musique trop fort parce qu'il y a mon voisin. Je ne hurle pas dans le tram ou dans le bus parce qu'il y a les autres. Je fais attention aux autres et j'ai mon petit espace de liberté que je promène partout. Alors Mill commence par là et puis progressivement, c'est ça qui est intéressant dans sa réflexion, peu à peu il se rend compte que la liberté de penser, c'est pas une liberté individuelle. Mon opinion, le fait que mon opinion soit interdite, ça ne concerne pas uniquement moi, c'est l'ensemble de l'espace public qui va être abîmé par une interdiction sur les opinions. Et donc toute la question de Mill, dont on pourrait croire que c'est un simple libéral, en réalité c'est quelqu'un qui pense la liberté comme articulation des libertés entre elles, selon un principe de mutualité, et que je dois, moi, pour être libre, penser les risques que je peux faire encourir aux autres, les accidents qui peuvent me survenir, et donc anticiper même l'avenir. Et c'est cette pensée mentale de la liberté qui est peut-être le plus précieux chez Mill, au-delà du simple principe de la non-nuisance qui est essentiel.
Marie-Lune Maizeau.
C'est tout à fait ça, et notamment le contexte du Covid, le contexte d'une épidémie est particulièrement propice à cette prise de conscience, parce que quand on reste dans une logique un peu abstraite, comme vous l'avez dit, schématique, où on se dit d'un côté il y a la liberté individuelle, et de l'autre celle des autres, et donc la question c'est comment on les articule, et qu'on comprend que en fait même ma liberté individuelle elle ne peut exister que dans un contexte collectif, ben on s'aperçoit que les choses sont beaucoup moins simples. Et l'exemple moi que je prends souvent pour expliquer ça, c'est que autant pour les exemples qui ont été évoqués, le fait de pas faire de bruit pour pas nuire aux autres, le fait de faire attention à ce qu'on fait au quotidien pour pas gêner les autres, ça c'est une évidence, mais dans un cas d'épidémie, il y a une logique de contagion qui fait que le moindre petit geste qui jusqu'à présent était anodin peut avoir des conséquences dramatiques sur un individu. Et l'exemple que j'ai pris pour illustrer ça, c'est le simple fait d'aller faire ses courses, d'attraper une pomme et puis de la reposer si on ne sait pas laver les mains et si on a le Covid sur soi, ça peut littéralement déclencher une réaction en chaîne qui peut mettre en danger la vie de quelqu'un. Ça a l'air complètement vertigineux quand on y réfléchit, mais pourtant c'est vrai.
Manifester, c'est devenu presque la seule activité sociale que peut faire Adeline. Depuis l'obligation du pass sanitaire, cette maman qui habite dans l'Indre a arrêté tout le reste pour elle et pour ses enfants.
Là, on ne peut pas reprendre la gym, on ne peut pas... plus de tennis, plus de foot. Ma santé avant tout, je me priverai, mais je ne me ferai pas vacciner.
À 40 ans, c'est la première manifestation de sa vie. Martine, elle, est là toutes les semaines à Guéret.
Ma vie sociale, elle ne ressemble pas à grand-chose, il faut dire. Je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus au cinéma. Si c'est le prix à payer, tant pis.
À 15 000 km de Paris, Emmanuel Macron veut montrer qu'il reste préoccupé. À peine arrivé, le président file à l'hôpital de Papeete.
Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner » Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté. Et au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre, déprogrammer une opération au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté.
Montage signé Lauriane Toulmont. Alors que penserait le philosophe libéral John Stuart Mill du pass sanitaire en se basant sur ses écrits, Martin Legros ?
Alors je crois qu'il serait très partagé, comme nous tous en réalité. Il serait partagé par le refus du paternalisme. Dans les propos d'Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre, il me semble qu'il y a, sinon dans le propos, que je partage assez, dans le ton, quelque chose qui est de l'ordre un peu paternaliste. Or, Stuart Mill avait l'idée de la liberté, il disait « il faut que chacun puisse risquer, déterminer le plan de sa vie, quitte même à prendre la mauvaise voie, parce que l'important, ce n'est pas de prendre la bonne voie et de trouver la voie la meilleure, mais c'est de la prendre et de s'y risquer. » Et donc, il était très opposé à toute forme de paternalisme, où je dirais « moi, je sais ce qui est bon pour toi, et fais cela parce que moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. » Donc ça, il aurait été assez, à mon avis, critique par rapport à ça, mais par ailleurs, il aurait été, à mon avis, aussi très très critique par rapport à vis-à-vis des gens qui disent que ma liberté, c'est de faire ce que je veux, et que indépendamment, en faisant fi, je ne veux aucune contrainte sur ma liberté, et je ne veux pas prendre en compte. Je suis indifférent ou aveugle, ou je ne veux pas savoir ce qu'il en est des autres et des menaces et des risques que je vais peser sur les autres. Et donc, je crois qu'il aurait navigué, comme nous le faisons tous depuis 2 ans, entre le refus du paternalisme, la défense des libertés individuelles et le souci de ne pas être, que la liberté ne soit pas indifférente ou ne méconnaisse pas le fait que les autres peuvent subir les conséquences de mon comportement.
Guillemette.
Ça me frappe, en fait, on revient dans la problématique de l'adolescent. C'est-à-dire, l'adolescent ne veut pas qu'on lui fasse la morale, l'adolescent ne veut pas qu'on lui fasse vraiment sentir les contraintes. Mais en revanche, si on les lui explique, disons, avec intelligence, et qu'il les ressent mieux de l'intérieur, là, il est prêt à embrasser une cause collective. En fait, c'est fou, il faut parler aux gens comme à des adultes, peut-être pour qu'ils réussissent à être libres comme il faut.
Aïdan Diaye.
Moi, ce qui me frappe, c'est comment cette crise a révélé vraiment, enfin, comme sur plein de domaines, mais cette question de l'articulation entre liberté individuelle et liberté collective, telle que Rousseau l'a décrit, en fait. Et ce que dit Rousseau déjà, c'est que nous devons toujours, justement, nous demander comment est-ce que notre intérêt individuel s'articule à l'intérêt général. Et Rousseau ne demande pas aux individus de se sacrifier ou de renoncer à leur intérêt particulier, mais l'intérêt particulier bien compris, il n'est réalisable que dans l'intérêt général. Et en même temps, il dit aussi, et il voit aussi comment c'est quelque chose qu'on peut très facilement perdre de vue. Et là, c'est ce qu'on voit. Les gens qui disent bah, « Moi, en fait, je pense à ma santé d'abord ou je ne veux pas me faire vacciner pour telle ou telle raison », c'est que Rousseau dit très bien ça, à un moment, ça va nous apparaître trop coûteux, alors que logiquement, et du point de vue du bon sens, c'est évident qu'il vaut mieux s'articuler à l'intérêt général. Mais il y a toujours ce risque que les individus perdent de vue, en fait, ce bon sens et que ça leur apparaisse comme trop coûteux à eux, individuellement, justement.
Marine Maizeau.
Je pense qu'une autre donnée qui complète ce qui a été dit, déjà dit, qu'il faut prendre en compte dans le cas de la vaccination et dans le contexte donc de l'épidémie de Covid, c'est le problème de la désinformation scientifique. C'est le manque d'informations fiables, auxquelles les gens se fient concernant la vaccination. Ce qu'on entendait dans l'extrait qui a été diffusé, pas le propos d'Emmanuel Macron, mais le propos d'une des manifestantes, c'est l'idée que le vaccin c'est dangereux et que du coup on me demande littéralement de mettre ma vie en danger. Donc c'est pas simplement une question de ma liberté finalement de me promener, d'aller au café, de faire ce que je veux, c'est je ne veux pas mettre ma vie au danger au prétexte de sauver celle des autres avec un vaccin dont je considère en plus qu'il va sauver personne. Et ça, si vous voulez, c'est un problème, parce qu'on évoquait l'idée qu'il suffit d'avoir un discours rationnel avec les gens pour qu'ils se sentent pas soumis à un discours paternaliste et que du coup ils acceptent l'évidence. Mais on s'est rendu compte que dans le cas de la vaccination, avec le phénomène des antivax, ça marche pas comme ça. Et donc ça nous amène à une autre dimension, je pense, qu'il faut pas minimiser. Bah, c'est le problème de la défiance vis-à-vis du savoir, de la connaissance et le développement des théories complotistes, quoi.
Ma liberté est-elle négociable? On continue à répondre à cette question dans quelques minutes, juste après la chronique de Guillemette Odissino, l'ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, quel personnage de fiction mérite cette semaine notre amitié?
Alors d'abord un peu de suspense, je commence toujours, vous savez, par cher Ali. Cher Ali, chers auditeurs, chères auditrices. Alors nous sommes à 3 jours du mois de novembre, réputé le pire mois du calendrier. Et ça y est, comme chaque année, j'en ai marre d'être gentille. Vous savez combien je porte au nu la gentillesse, cette qualité souvent considérée avec condescendance. Mais alors que viennent les chrysanthèmes, j'avoue que cela me coûte d'être compréhensive. Vous demandez à l'électricien qui doit changer vos radiateurs de venir à 8h30. Mais lui, ça l'arrange de venir à 7h. Alors bon, puisque ça l'arrange. Une vieille dame vous passe devant à la caisse parce qu'elle n'a que 3 produits et vous 4. Mais faites donc, c'est normal, je vous en prie. Et évidemment que vous allez finir ce dossier soudainement devenu urgent jeudi soir parce que votre patron, lui, il aimerait bien partir en week-end dès vendredi matin. Alors vous comprenez, vous vous mettez à leur place et si vous êtes une femme, c'est logique puisque vous êtes empathique. Vous n'êtes plus qu'un homme. C'est scientifiquement prouvé, merci l'université de Cambridge, dont les tests sur plus de 680 000 personnes ont révélé qu'en moyenne, les femmes ont une plus grande capacité à reconnaître ce qu'une autre personne pense et à réagir de manière appropriée. Merci l'université de Californie qui a démontré que les femmes sont plus douées pour ressentir la douleur des autres. Mais il y a Villanelle, ma géniale amie tueuse de la série Killing Eve. Oksana, pour l'état civil russe, mais tout le monde préfère son surnom qui vient du nom d'une vieille poésie pastorale. Et c'est un poème, en effet, Villanelle. Quand sa vieille voisine peine à descendre l'escalier avec ses poubelles, elle ne bouge pas d'un pouce pour l'aider. Dès la toute première séquence de la saison 1, elle réussit à sourire à une petite fille qui mange une glace en face d'elle, en copiant, tel un automate, le sourire du barman, puis quand même elle renverse la glace sur la robe de la gamine. Neurone miroir, niette. Empathie, zéro. Killing Eve, pour mémoire, c'est le jeu de la chatte et de la souris entre Eve Pollastri, agente des services secrets britanniques, et Ma Villanelle. Tueur à gage caméléon, efficace comme personne, qui tue de sang-froid, qui aime ça.
Et votre amie, elle tue tout de même pas mal, hein?
Ah, mais elle tue beaucoup. Elle tue dans le monde entier et jamais de la même manière. Villanelle collectionne les victimes comme une enfant capricieuse et elle s'ennuie quand il n'y a plus personne à tuer. À côté de cette vraie psychopathe au chic fou qui range ses tampons hygiéniques dans le même tiroir que ses munitions, Hannibal Lecter, c'est un chaton.
Normalement, ça devait faire penser à un suicide.
Bah oui.
Elle se serait tranchée la gorge toute seule.
Ça peut arriver.
Et elle a abattu 4 personnes?
Dans un sursaut.
Villanelle, pourquoi es-tu aussi vilaine?
J'ai hâte de m'occuper du prochain.
Non. Pas de nouvelles cibles jusqu'à ton évaluation.
Sois sympa, elle a de l'asthme. Tu sais que j'adore quand il s'étouffe.
Oh, pardon! Non!
Est-ce que tu as ressenti de l'anxiété ou du stress ces derniers temps?
Pas vraiment, mais j'ai beaucoup saigné pendant mes règles la semaine dernière. En dehors de ça, ça va.
Tu as réussi ta mission?
Oui. Je lui ai tiré 2 balles dans le cœur et j'ai vu la petite lumière s'éteindre dans ses yeux.
Tu as parlé avec lui?
Un peu. Il a dit qu'il avait des enfants et il m'a proposé de l'argent.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand il t'a dit ça?
De l'impatience.
Alors, vous avez remarqué, d'habitude dans les fictions, une héroïne qui se regarde dans une glace et tire un peu la peau de son visage dans un geste de lifting exprime toujours un peu de dégoût d'elle-même, même si elle est superbe. Et c'est agaçant pour nous, spectatrices, qui savons que dans notre cas, ce serait pas du luxe, en fait, une petite chirurgie. Eh ben, pas Villanelle. Elle se trouve magnifique, elle a raison et se le dit devant le miroir de sa chambre, de son appartement parisien. Parce qu'elle habite Paris, la ville de la mode. Entre deux meurtres, elle comble son vide existentiel en faisant du shopping. Jamais une méchante n'a été aussi stylée. Et elle adapte ses tenues de créateur au contexte de ses meurtres. À elle seule, la garde-robe féminine masculine de cette bisexuelle assassine l'ordre patriarcal. D'autant que mon amie ne s'habille pas pour plaire aux autres, mais uniquement se plaire à elle-même. Même un œil au beurre noir peut devenir un accessoire.
Que ce soit clair, c'est pas parce que tu t'es introduit dans mon appartement et que tu bois dans une petite tasse ridicule que tu m'impressionnes. Ça se fait pas.
Je n'essaye pas de t'impressionner. Tu as vu ton œil, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Je voulais qu'il soit raccord avec ma veste. Tu veux un smoothie?
Vous savez, le plus beau, tout le monde trouve Villanelle attachante. Alors à partir de demain, moi aussi, je vais devenir attachante en étant impressionnante. D'un simple regard, mon patron annulera son départ en week-end pour descendre mes poubelles. Et vous, chère Ali, vous serez juste un tout petit peu inquiet, juste un tout petit peu, quand je vous demanderai gentiment... Tu veux un smoothie?
Non, ça va. Merci beaucoup, Kimet Odissino. On peut évidemment podcaster votre ami du vendredi sur l'appli France Inter. Un mot, Thibaut de Saint-Maurice, sur cette série?
Oui, non, c'est une série absolument désopilante. En fait, c'est une série qui prend au sérieux le concept de femme fatale. Voilà.
Vraiment fatale. La réalisation cette semaine était signée Lauriane Toulmont, avec à la technique cette semaine Johanna Gabric, Rémi Cessiaga et Pierre-Yves de Rolin. Valentine Chedebois a assuré de la programmation musicale et on se retrouve juste après les Cure. Friday, I'm Love.
It's Friday, I'm
Les Cure, Friday, I'm in love.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres.
Grand bien vous fasse.
Sur le sable, sur la neige.
Ali Rebbi.
J'écris ton nom.
Sur France Inter.
10h36, ma liberté est-elle négociable? C'est notre thème ce matin avec la complicité du mensuel Philosophie Magazine. En tout cas, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Que penser de la liberté d'exprimer des idées radicales, racistes, misogynes, antisémites, homophobes, à la limite de la loi? Marilyn Maezo, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Petite Fabrique de l'Inhumain. Peut-on dire que notre liberté s'arrête dès lors qu'elle nous rend inhumains?
Alors, à la limite de la loi, les exemples que vous venez de citer sont pas à la limite de la loi. Oui. C'est condamné par la loi.
Il y en a beaucoup qui, en ce moment, flirtent dans le discours public, dans l'espace public.
En fait, c'est ce que j'appelle l'euphémisation du mal.
Voilà, exactement.
Le fait de pas, par exemple, hurler mort au PD, mais de tenir un discours qui rend les homosexuels souhaitant disposer des mêmes droits que leurs concitoyens hétérosexuels responsables d'une potentielle chute de la civilisation, l'idée qu'ils maltraitent les enfants, toutes ces idées-là, si vous voulez, qui forcément créent une hostilité vis-à-vis de ces personnes, mais sans pour autant les attaquer de manière explicite. Je pense que le problème qu'il y a dans ce cas-là, c'est quand les gens disent qu'après tout, la liberté d'expression doit être absolue et que on censure quand on interdit l'expression publique de ce genre d'idées, c'est que on a une vision extrêmement fausse de ce que les mots peuvent faire. On part du principe qu'il y a les actes d'un côté, il y a les mots. Les actes sont condamnables parce que les conséquences sont réelles, alors que les mots ne sont que des mots et finalement, on n'imagine pas les conséquences qu'ils peuvent produire. On a appris récemment le décès tragique d'une adolescente de 14 ans qui s'est suicidée à cause d'un harcèlement scolaire. C'est pas la première, ça sera probablement pas la dernière. Et ça n'est qu'un de ces exemples qui prouve que les mots peuvent littéralement tuer. Ça, c'est un exemple, disons, individuel et dans quelque chose qui nous parle. Mais de manière beaucoup plus massive, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple qui est évoqué par l'historien Jacques Semmelin dans son livre « Purifier et détruire », où il explique que tous les grands génocides de l'histoire, donc c'est pas des petits détails si vous voulez, ont été précédés par une préparation idéologique de la population. Ça veut dire que des discours ont été élaborés, diffusés massivement, de manière à façonner les esprits pour normaliser des actes qui, avant ça, auraient pu paraître comme anormaux.
Alors à propos de cette euphémisation du mal, je vous cite Marilyn Maezo, cette stratégie visant à désamorcer la nature choquante d'un fait, d'une idée, d'un discours, en vue de le banaliser et de décliner toute responsabilité quant à leurs conséquences, des discours de haine dépouillés de marqueurs explicites pour mieux brouiller les pistes.
Oui, enfin c'est à partir du moment où un discours de haine est explicite, c'est difficile de nier ce que vous êtes en train de dire. Par contre, si vous arrivez à tordre le langage pour traduire la même idée, exprimer la même idée, mais sans pour autant que ça soit explicite, ça a deux effets favorables pour la personne qui le fait. Le premier, c'est que le message passe, quoi qu'il arrive. Et le deuxième, c'est que il n'est pas suffisamment condamnable dans le regard de l'autre pour pouvoir susciter une condamnation générale. Et parmi les exemples que je prends, il y a le fait que, par exemple, quand vous avez un discours du type « je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste », mais qu'à côté de ça, vous allez récupérer un imaginaire, un discours qu'on trouve sur les sites d'extrême droite, de Soral, de Dieudonné, comme l'antisionisme, c'est positivement connoté parce que ça renvoie à la défense du peuple palestinien, vous avez la possibilité de diffuser des clichés antisémites éculés qui datent de plusieurs siècles, mais toujours avec le gage de l'instrumentalisation d'une noble cause.
Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine.
Oui, je partage ce que vient d'être dit, mais j'ajouterais quand même, il y a une limite, c'est qu'il y a une tendance dans le monde contemporain pour faire face à ces nouvelles menaces. Vous dites, quand il y a un propos explicitement condamnable et qu'il y a une intention ou qu'il y a un contexte où il y a une connotation qui est claire et clairement malveillante, le problème, je dirais, de l'autre côté, c'est que si du côté des victimes de ces propos, leur susceptibilité devient un argument pour limiter la liberté, même ces mauvais usages, c'est très dangereux, parce que si c'est la susceptibilité des uns n'est pas celle des autres, et c'est une porte de Pandore où n'importe qui va dire « Ah mais moi je suis choqué par tel propos, ah mais moi je suis heurté par tel propos », et à ce moment-là, c'est une restriction très très forte et dangereuse, je crois, de l'espace public.
Aïdan Diaye, professeur de philosophie.
Oui, alors du coup, moi, je trouve que justement le titre du dossier du magazine est intéressant parce que pour moi, c'est une histoire de négociation en fait dans l'espace public, c'est-à-dire il y a des choses qui sont moins acceptables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant, des blagues racistes, des blagues antisémites, homophobes qu'on pouvait supporter avant en fait et qui aujourd'hui sont moins supportables. Et je pense que c'est vraiment des questions de rapport de force en fait dans l'espace public, comme tout en fait, comme le droit aussi et l'expression d'un certain rapport de force, comme la politique en fait s'appuie sur ces rapports de force. Et donc c'est pas la susceptibilité individuelle, mais à un moment, bon, les femmes qui par exemple vont dire, en fait on ne supporte plus cette liberté d'importuner ou la liberté de faire des remarques sexistes, des remarques sur le physique, c'est simplement d'essayer de marquer pour le coup justement une limite et de négocier dans l'espace public ce que chacun peut, ce qui est acceptable collectivement en fait dans une négociation justement des uns avec les autres.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, deux petites remarques. La première, c'est que parfois on confond liberté de pensée et liberté d'expression, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que liberté de penser, c'est difficile de le contrôler. Et effectivement, voilà, on est seul avec ses pensées. Et dans liberté, deuxième remarque, dans la liberté d'expression, il y a expression. Et j'aime assez cette idée que vient de mentionner Aïda. C'est-à-dire que, au fond, ce qui est gênant, c'est quand des propos vont venir empêcher l'expression d'autres voix. Il me semble que la liberté d'expression, puisqu'elle est une liberté d'expression, elle doit avoir à cœur garantir la possibilité d'une expressivité égale de toutes les voix d'une société. Et donc ce qui est gênant quand on a des propos qui appellent à la mort ou à la haine ou à la violence ou à des discriminations, des inégalités envers tel ou tel type de communauté, c'est que ce sont déjà des propos qui réduisent la capacité d'expression des gens qui sont visés. En fait, le bien commun que nous avons en démocratie, c'est cette capacité que nous avons de faire entendre plusieurs voix, une pluralité de voix. Et donc, dans liberté d'expression, il y a liberté, mais il y a surtout expression, expressivité.
Guy Métodicino.
Je me demandais, d'après ce que vous disiez, on a dit au début que la liberté, c'était de ne pas nuire, enfin en tout cas d'être libre en essayant de ne pas nuire. Ce qu'il faudrait définir, c'est aujourd'hui particulièrement, c'est quoi nuire ? Parce qu'en fait, c'est ça. Pratiquement, on a l'impression que c'est ça qui se pose aujourd'hui. C'est à quel moment nuit-on à autrui, que ce soit par l'expression ou par le comportement. Et de là, peut-être, ce sera plus simple pour voir ce qui est libre ou pas.
Marine Maizeau.
C'est pour ça que je voudrais faire une précision en réaction à ce qu'a dit Martin Legros. Pour moi, la nuance, elle est pas obscure, en fait, elle est très nette. Quand vous évoquez le fait qu'aujourd'hui, il y a un risque que, finalement, le ressenti des uns et des autres puisse limiter la liberté d'expression et donc ça devienne le règne de l'arbitraire, de la subjectivité. Pour moi, il y a une distinction très, très nette à faire, par exemple, entre telle idée ou tel dessin choque mes croyances et tel propos me déshumanise. Parce que quand quelqu'un a un propos qui déshumanise les homosexuels en tant que tels, les femmes en tant que telles, les personnes qui subissent le racisme en tant que telles, c'est pas quelque chose qui devrait, pour moi ça me paraît quand même assez important, qui ne devrait choquer que la sensibilité des personnes concernées. En tant qu'être humain, ce genre de propos concerne absolument l'ensemble de la population. L'antisémitisme, c'est pas que le problème des juifs, le sexisme, c'est pas que le problème des femmes. Et je pense que cette nuance-là, elle est importante parce que justement les gens qui veulent faire de la sensibilité le nouveau critère de ce qu'on peut dire ou pas dire, ont tendance à confondre les deux. Par exemple, quand un dessin caricature un personnage religieux, à considérer que c'est la même chose que s'attaquer à un musulman, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Mais eux considèrent qu'ils sont humiliés par ce dessin.
Oui.
Donc c'est pas facile de tracer la limite.
Et Marilyn Maizeau, vous dédiez d'ailleurs votre livre La petite fabrique de l'inhumain à la mémoire de Samuel Paty, assassiné, exécuté il y a exactement un an devant son lycée à Erani dans les Yvelines. Pourquoi est-il un exemple d'homme libre à suivre et en quoi est-il un emblème de liberté ?
Parce que c'est d'abord un homme qui savait les risques qu'il prenait en évoquant des sujets qui pouvaient être polémiques parce qu'ils ont été rendus polémiques dans la société. Mais ensuite, plus fondamentalement, parce que c'était un professeur qui croyait en la liberté de penser et la capacité de réflexion de ses propres élèves. On a beaucoup parlé de Samuel Paty, certains ont questionné son choix, le fait d'avoir montré les caricatures, etc. Quand on voit la réaction de ses élèves, je ne parle pas de celle, la seule qui s'est dite choquée, mais qui pour le coup n'avait pas assisté au cours, je parle de celle des élèves qui étaient là et qui ont dit à quel point c'était un professeur exceptionnel. Samuel Samuel Paty, c'est celui qui croyait en la capacité de ses élèves, et donc de tous, à s'émanciper de ses a priori, se libérer potentiellement du choc premier qu'on peut avoir face à certains contenus, et donc avoir une réflexion libre, c'est-à-dire une réflexion qui n'implique pas forcément d'être d'accord avec tout ce qu'on nous montre ou tout ce qu'on nous dit, mais avoir la capacité de comprendre. Par exemple, le dessin de Coco, se dire « je l'aime pas », ou « il me choque », mais en même temps, c'est important de comprendre en quelle année il a été dessiné, quel est le contexte, l'actualité qui a produit ce dessin. Et donc, je comprends que replacer dans son actualité, ça n'a pas forcément le même sens que celui qu'on lui donne quand on le placarde comme ça, hors contexte.
Martin Legros.
Oui, il y a, en philosophie, c'est une notion qui est en train d'émerger, une distinction pour répondre à la question de Guimet. C'était la distinction qu'on fait entre la nuisance et l'offense. Alors, oui. John Strasmill disait, la liberté, c'est de faire tout ce qu'on veut, sauf nuire à autrui. Il y a un philosophe américain, Joel Finger, qui a dit, d'accord, mais la nuisance, ça permet pas de traiter les questions de l'offense. Il donne un exemple très concret. Quand vous montez dans le bus, imaginez que quelqu'un arrive dans le bus et se mette à vomir, se mette à hurler, se mette à avoir un comportement à monter. Il prenait un exemple, c'était un peu loufoque, il monterait avec un cercueil, il ouvrirait le cercueil et il taperait avec un marteau le corps du mort. Il n'y a pas de dommage qui vous est infligé dans cette situation-là. Et pourtant, on peut se demander jusqu'où le comportement de l'autre, qui ne me porte pas un dommage personnel, n'est pas une offense, et est-ce que je ne suis pas fondé face à une offense à demander l'intervention d'un tiers pour mettre fin à ce comportement. Et donc c'est la différence entre la nuisance et l'offense, c'est pas facile à établir, mais à l'envie c'est intéressant à explorer.
Petite précision, Samuel Paty a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine et c'est son assassin qui a été abattu par la police à Éragny. Tiens, écoutons une note vocale que Roselyne nous a laissée.
On dit souvent qu'être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Et pourtant, avant d'être maman de mes deux adorables petites filles à plus de 40 ans, j'avais la sensation d'être libre. Maintenant, je dois me plier aux horaires de mes enfants, de mon homme, c'en est bien fini de ce sentiment de liberté. Alors, puisqu'être libre, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, quand on veut, comment puis-je ressentir de nouveau ce grand vent de liberté, même englué dans les contraintes de ma vie familiale?
Aïda Ndiaye, ça tombe sur vous.
Spontanément, j'aurais envie de dire, attendons 18 ans que ces enfants grandissent. Mais je pense que le sentiment de liberté qu'avait Rosaline, c'est ça, ou Rosalie, avant d'avoir ses enfants, il consistait pour autant pas à faire tout ce qu'elle voulait quand elle voulait. En fait, elle était contrainte par, je ne sais pas, ses études, son travail, ses horaires, toutes les choses qui font que dans la vie quotidienne, on a justement des contraintes et un cadre, et qui croit, effectivement, je peux pas dire le contraire, avec les enfants, bien sûr.
Thibaut ?
Oui, non, juste pour te dire que, en fait, c'est formidable parce que c'est une l'expression d'une liberté formidable que de choisir d'avoir deux enfants et que de donner naissance et d'éduquer ces deux enfants.
Allez, il est temps de retrouver votre chronique, mon cher Thibaut.
Ah, c'est à moi.
Oui, c'est à vous.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous prolongez la réflexion sur la liberté de ce matin en nous proposant de sortir du choix et de son embarras.
Oui Ali, avec une chronique donc en forme de dédicace à tous les indécis de la Terre et puis aussi en forme de clin d'œil à tous ceux qui pensent qu'il suffit d'avoir le choix pour être libre, ce dont on a déjà un petit peu parlé, comme si dans la vie ordinaire, les choix que nous avions à faire se présentaient de façon aussi simple qu'au cinéma.
C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Alors vous aurez reconnu, Ali, le film Matrix, la fameuse scène du choix de la petite pilule rouge, celle qui fait connaître la vérité en nous faisant sortir de la matrice. Sauf que c'est au cinéma, parce que dans la vraie vie, nos choix sont rarement aussi nets, aussi clairs, et quand bien même ils se présenteraient donc clairement à nous, eh bien il n'est pas certain que nous puissions effectivement choisir de façon aussi radicale. Comment être sûr que nous puissions choisir telle ou telle option librement, c'est-à-dire sans être déterminés par telle ou telle cause insoupçonnée ou insoupçonnable. Les progrès de la génétique, de la connaissance des hormones, de l'imagerie cérébrale, dont on a parlé aussi un peu tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, l'hypothèse de la psychanalyse ou les analyses de la sociologie nous font apparaître à nos propres yeux bien plus déterminés que nous le pensons au premier abord. Je me retrouve d'abord déterminé par mon éducation, mon milieu social, mon patrimoine génétique, mon alimentation, même mes expériences affectives passées. Et le choix.
Oui, donc... le choix, pardon. Pardonnez-moi, mon cher. Le choix nous embarrasse et nous embrouille. J'étais absolument captivé par ce que vous disiez, mon cher Thibault. Le choix nous embarrasse et nous embrouille plus qu'autre chose.
Oui, absolument. Avant de vouloir choisir, il faut donc, je crois, apprendre et connaître. Sinon, je risque de n'être qu'un pantin qui s'agite mais qui ne voit pas les fils qui le manipulent, esclave du caprice d'un désir sans boussole. Alors, comme le fait remarquer l'ami Spinoza, hein, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il ne suffit pas de vouloir pour faire, mais je ne suis pas non plus libre de faire ce que je veux. Pour autant, je peux commencer à essayer de connaître ce qui me détermine. Je peux apprendre à connaître toutes ces causes qui me poussent à désirer ce que je désire et à faire ce que je fais. Toutes ces causes qui me pousseront à choisir ceci plutôt que cela et à croire que je choisirai même librement. Spinoza toujours redéfinit donc la liberté à partir de la connaissance. Je ne suis plus libre parce que je fais ce que je veux, mais parce que je sais ce que je fais. Je suis libre quand j'agis en connaissance de cause, quand je comprends ce qui m'arrive et ce qui me pousse d'un côté plutôt que de l'autre ou ce qui va faire pencher la balance. Un peu comme, pour ceux qui l'ont vu il y a quelques années déjà, un peu comme Michael Scofield dans la série Prison Break qui parvient à s'évader. Pourquoi ? Parce qu'il a anticipé toutes les causes agissantes d'une évasion. Pas besoin donc d'avoir le choix pour être libre. On peut se débarrasser de son embarras parce qu'en fait nous n'avons jamais vraiment le choix, ou alors nous en avons tellement que nous ne pouvons plus vraiment choisir. Il faut donc arrêter de faire du choix le critère de la liberté. Nous nous découvrons toujours dans une situation particulière, une situation déterminée, un état donné de notre corps, de notre société, de notre histoire, de nos désirs, de nos affections. Et tout cela, eh bien, il faut commencer par apprendre à le connaître. On peut le dire autrement et toujours avec Spinoza, dans la vie, il ne nous faut ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre.
La chronique philo de Thibault de Saint-Maurice, qui m'a bien captivé, a podcasté sur l'appli France Inter. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. En attendant, on écoute Yeli Yeli, qui interprète Liberté. Interpréter Liberté.
Ouh. Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Je suis pas obsédée par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Ça va, Maya Mazoret,
ça
à
va,
Vienne.
Ça
bon,
va.
Alors c'est l'heure de votre Très chronique libre. Sexe, de ta chronique sexe. Tu nous parles de liberté sexuelle ce matin.
Tout à fait, et je suis naturellement qualifiée pour en parler car j'appartiens à la première génération qui a grandi après la libération sexuelle. Alors je vous redonne le scénario officiel, l'évangile selon mai 68. Au commencement étaient les ténèbres et logiquement on faisait l'amour dans le noir, observé seulement par Dieu et le général de Gaulle. À cette époque, reculer, c'est bien simple, rien ne va. On n'a ni Viagra, ni péridural, on risque constamment la grossesse et la réprobation morale, on nage dans les limbes. Heureusement, en l'an de grâce 68, mes parents et Daniel Cohn-Bendy déboulent, héroïques cheveux au vent, pavés au poing, et ils arrachent de haute lutte la contraception, l'avortement et l'acceptation de l'homosexualité. Je sais, cette datation n'a aucun sens, mais notez bien que c'est pareil dans la Bible. Bref. À partir de cet élan libérateur, tout devient possible, un âge d'or du sexe commence, et la progéniture qui en découle, ça c'est moi, n'a plus qu'à littéralement jouir sans entrave du travail effectué par ses parents. Seulement, ça s'est pas passé comme ça, car l'évangile nous l'apprend, ma génération a été chassée du paradis par les quatre cavaliers de l'apocalypse, le sida, le Covid, Internet et Killing Eve sur Netflix. À quoi s'ajoute, désormais, une faute originelle, l'ingratitude. Car nous, enfants et petits-enfants de mai 68, avons trahi la libération sexuelle en cédant aux sirènes du mal absolu, à savoir la pensée woke. Ça nous amène à la situation d'aujourd'hui. Si j'allume ma radio sur Boomer FM, j'entends que les jeunes sont coincés, qu'ils ne font plus l'amour et que vraiment, vraiment, c'était mieux avant.
La libération sexuelle aurait donc été une sorte de parenthèse, Maya ?
Ouais, on pourrait le croire, mais l'avantage des évangiles, l'histoire nous l'a montré, c'est qu'on peut toujours rajouter des livres, on peut toujours réactualiser le canon. Or, dans l'évangile millénial, la libération sexuelle a continué après mai 68, et elle continue de continuer. Révolution de la masturbation avec les sextoys, privatisation de la rencontre avec les applis, libération de la monogamie avec le polyamour, libération du genre avec la montée en puissance des personnes trans et non-binaires, libération des pratiques avec des femmes pénétrantes et des hommes pénétrés, libération du BDSM après Fifty Shades of Grey. Et bien sûr, les libertés fondamentales, mieux vaut tard que jamais. Ne pas coucher quand on n'a pas envie, ne pas subir de violences sexuelles, ne pas se faire culpabiliser quand on est une femme aventureuse. Bref, tout ce qui appartient à cette pensée woke que je trouve joyeuse et que tant de boomers trouvent triste.
C'est donc une guerre de religion ?
Plutôt un conflit de génération et même un conflit de libération. Car de mon point de vue, qui n'est pas parole d'évangile, mai 68 a libéré non pas la sexualité, mais le rapport à la procréation. Dans les pratiques elles-mêmes, rien ou quasiment rien n'a changé. On a le même rapport sexuel, mais avec plus de gens. Or, si je peux me permettre, c'est pas en multipliant le même scénario qu'on change de script. Au contraire, on en arrive au paradoxe du jour. La libération de mes parents est la contrainte de ma génération, et inversement. Alors là, on pourrait dire, c'est pas grave, chacun voit midi à sa porte, qui sommes-nous pour juger ? Cependant, quand j'entends certains boomers se vanter d'être libérés, super libérés, je me dis que c'est pas l'humilité qui les étrangle et que, de mon point de vue, c'est eux qui sont coincés dans une logique de fin de l'histoire où on écrit la libération au singulier, au moment même où non seulement d'autres combats ont lieu sur d'autres barricades, mais où, ironiquement, les libérateurs d'hier se retrouvent dans le rôle des forces de l'ordre d'aujourd'hui. Je me permets donc de nous rappeler à la sagesse de l'histoire, la libération est une quête et non une destination, un horizon qui recule à mesure qu'on avance. En l'occurrence, la lutte continue. Ne nous libérez pas, on s'en charge très bien tout seul.
La chronique sexe de Maya Mazoret a partagé sur l'appli et le site de France Inter. Merci Marilyn Maizeau, La Fabrique de l'Inhumain est publiée aux éditions de l'Observatoire. Merci Martin Legros, le nouveau Philosophie Magazine est disponible en kiosque. Merci Aïden Diaye et merci à l'équipe Alexia Rivière, Camille Poux-Jalaguier et Victorien Thomas de m'avoir aidé à préparer cette émission cette semaine. Demain, j'ai le plaisir de vous retrouver à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien. Et lundi, dans Grand Main vous fasse, vous retrouverez ce cher Thomas Chauvin pour une émission consacrée au poil.